podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Homeland est probablement l'une des séries les plus exposées ces dernières années. Si le pilote a fait une audience plus que moyenne pour un épisode diffusé sur Showtime, plus les semaines passaient, plus la série ressemblait à un public large en 2011. Le premier épisode de la deuxième saison, diffusé en septembre 2012, bénéficiant du succès critique de la série, a rassemblé près de 2 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la deuxième série la plus suivie de la chaîne après Dexter. La série a pratiquement raflé tous les prix qui comptent, Golden Globe de la meilleure série télévisée dramatique, de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique, Emmy Award de la meilleure série dramatique, du meilleur scénario, de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans une série dramatique, et j'en passe. La série est diffusée depuis le 2 octobre 2011 sur Showtime, elle a été créée par Howard Gordon et Alex Ganza d'après une série télévisée israélienne. Mandy Patinkin, vue dans Dead Like Me, Esprit Criminel, David Marciano, Steve Billing dans The Shield, et Claire Danes, d'Angela 15 ans, travaille pour la CIA et tente d'empêcher un attentat terroriste sur le sol américain. Damian Lewis, vu précédemment dans Frères d'Armes ou Life, est un soldat américain libéré après 8 années passées dans les prisons d'Al-Qaïda. On en discute aujourd'hui avec Sarah Sepulcre et Cindy Willem.
Coucou! Bonjour.
Il n'est évidemment pas évident de savoir si Nicholas Brody, le soldat américain incarné par Damian Lewis, est un héros ou un traître à la patrie, Homeland signifiant patrie en anglais.
Tout à fait. Et donc là, et je fais vraiment un warning pour ceux qui nous écoutent, je vais bien vous parler des saisons 1, 2 et 3. Je vais essayer évidemment de ne pas vous spoiler, mais si vous ne supportez pas d'entendre le moindre élément sur les séries que vous n'avez pas encore débutées ou les saisons que vous n'auriez pas encore vues, je vous conseille d'arrêter tout de suite d'écouter ceci. Alors, Nicholas Brody, Claire Danes, qui joue Carrie Mathison, je ne sais pas s'il faut encore vraiment en parler de cette histoire. À mon avis, tout le monde sait de quoi parle Homeland, mais juste pour ceux qui auraient loupé un peu l'affaire, je vous rappelle donc que Nicholas Brody, c'est un marine kidnappé pendant 8 ans, détenu en Irak et en Afghanistan, qui rentre au pays et dès le début se pose cette question fondamentale à son propos. Est-il un traître ? Tout le monde le traite en héros. Et ça va aller crescendo d'ailleurs entre les saisons 1 et 2. Pourtant, Carrie Mathison a un doute car un de ses indicateurs sur le terrain lui a dit qu'il y avait un soldat retourné. Dans le jargon de la CIA, ça signifie qu'une personne kidnappée aurait été idéologiquement manipulée par les personnes qui l'ont kidnappée et qu'elle serait devenue aujourd'hui un défenseur de la cause. Et donc, Nicholas Brody serait, selon elle, en train de préparer un attentat terroriste sur le sol américain pour Al-Qaïda, plus précisément pour Abu Nazir, qui est la personne qui l'aurait retourné. Donc elle le suspecte d'être un terroriste, elle truffe sa maison de caméras et de micros. Tout ce que je vous dis là, c'est le premier épisode, donc il n'y a pas trop de spoil. Hein. Elle va commencer une enquête illégale à son propos. Petit à petit, on sent que ça ne va pas être si simple que ça, que Brody est très prudent. Et donc le doute est véritablement permis, à la fois pour elle, pour ses collègues de la CIA, mais aussi pour nous téléspectateurs. C'est une série qui parvient véritablement à donner des éléments pour et contre.
D'autant qu'en plus, Carrie Mathison a des troubles bipolaires et donc ça perturbe aussi notre compréhension.
Oui, et un deuxième élément est que non seulement elle souffre de troubles bipolaires et qu'il est vrai que cette obsession pourrait être l'objet tout simplement de sa maladie, mais en plus on sent qu'elle développe des sentiments pour lui et ça aussi, ça va finir par occulter certaines choses ou en tout cas poser le doute en tout cas sur ses motivations à elle. Je pense que la saison 1 développe principalement cette intrigue-là. Je ne vous dis pas comment elle se termine. Sachez simplement que les saisons de cette série se terminent très souvent, non pas sur un cliffhanger, parce que c'est pas nécessairement la dernière scène, mais sur un événement fort. La différence, c'est qu'un cliffhanger, on ne sait pas comment ça se résout. Ici, on a souvent, on sait comment ça se passe, mais on ne sait pas ce que cet événement peut signifier pour ce groupe de personnages, pour la saison qui suit. Et parfois, on se demande même, mais comment ils vont faire ? Pour s'en sortir avec ça.
Et d'ailleurs, donc, à la fin de cette saison 1, est-ce qu'on va en savoir davantage sur Brody, savoir s'il est un terroriste ou non ?
Oui, on le sait. Mais ça ne signifie pas que les personnages sur le terrain le savent. En tout cas, pas tous. Et c'est ça qui complique un peu les choses. Donc, on sait quelle est la nature, effectivement, de Brody. N'oubliez jamais aussi que dans une série, rien n'est jamais tenu pour acquis. et que les personnages peuvent évoluer, peuvent aussi nous mentir. Et donc, c'est pas nécessairement... La fin de la saison 1 n'est pas nécessairement ce qui va perdurer dans la saison 2 et dans la saison 3. J'ai dit pas nécessairement.
Ça fait un peu peur parce que c'est un petit côté Alias quand même.
Oui, ça ne part pas dans des choses aussi biscornues, etc. Ça reste tout à fait logique et cohérent, mais au début de la série, je me suis dit comment ils vont faire. Cette série est bâtie sur ces deux personnages et sur le doute, à la fois le doute de l'une sur l'autre, sur leur histoire qui commence, et je me suis dit comment ils vont faire pour vraiment garder ça pendant plusieurs saisons. On ne peut pas garder un doute tel que celui-là, ou alors ça n'avance pas et ça n'a donc aucun intérêt, on est bien d'accord. Il faut quand même avouer que la première saison, au niveau de l'écriture, elle est très très intéressante, parce qu'elle relance sans cesse notre intérêt. Et là où on aurait pu se dire une série normale va prendre ce doute et le faire perdurer pendant toute la saison, en fait elle va beaucoup plus vite que ça. Et après quelques épisodes, on se dit déjà, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter après ? Et en fait, ils y parviennent très très bien. Chose qu'ils font moins bien, à mon avis, dans la saison 2. La saison 2, je l'aimais beaucoup moins quand je l'ai regardée, et je l'aime beaucoup moins après avoir vu la saison 3. C'est vraiment une saison qui est un peu une saison de transition entre cette intrigue de la saison 1 et celle de la saison 3, qui reste dans le même ordre d'idées. On ne passe pas à deux personnages tout à fait différents, on laisse pas Brody d'un côté et Carrie s'intéresse à une autre personne, on passe pas d'une intrigue sur la CIA et le terrorisme et les liens entre les États-Unis et le Moyen-Orient à les liens entre les États-Unis et l'Australie, donc on reste vraiment dans le même élément, mais ça change quand même très très fortement. C'est une série qui va devoir dealer avec les conséquences justement de cette saison 1, et notamment l'écartement de Carrie, parce qu'on sait que sa maladie va finir par poser un problème. Brody va se présenter en politique, par exemple, et donc c'est aussi intéressant de voir comment ça passe à cet échelon-là. Il y a des preuves sur certains comportements que certaines personnes obtiennent, et donc petit à petit, on sent qu'il faut tout réorganiser, mais que cette saison 2 deal les conséquences de la saison 1, et donc elle a peu d'intérêt narrativement, à part nous emmener dans la saison 3. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. La saison 3, elle va partir donc sur ses nouvelles bases, après un autre élément qui se passe à la fin de la saison 2, et je trouve qu'elle parvient assez bien à redonner du rythme et du dynamisme à ce récit. Elle parvient à donner une suite plausible alors qu'on est face à des éléments qui ne le sont pas du tout. Il faut quand même se rendre compte des choses. La CIA ne va jamais employer quelqu'un de bipolaire. S'ils apprennent que l'un de leurs employés est bipolaire, je pense que la personne est éjectée dans les 5 secondes. Si la CIA a un doute sur une personne, je pense qu'il est descendu dans la journée. Donc je pense qu'on est vraiment avec des choses très peu vraisemblables, mais la série parvient malgré tout à les agencer en tout cas.
Moi, une question que je me pose, c'est, vu qu'on sait déjà à partir de quelques épisodes qu'il est d'un côté ou de l'autre, un terroriste ou non, comment la série va réussir à nous tenir en haleine et va nous donner envie de continuer à la regarder si on sait déjà ce qui va se passer?
Alors en fait, d'abord, on garde toujours un doute, surtout sur la saison 1. Et ensuite, quand on sait, en fait, on se demande comment justement ils vont dealer avec ça. Parce que le fait qu'il soit d'un côté ou l'autre ne signifie pas qu'il est blanc ou noir, bon ou mauvais. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose de possible malgré tout. L'intérêt, c'est de voir comment ils vont utiliser ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un monde du renseignement où on peut utiliser de la contre-idéologie, de la contre-manipulation, et donc tous les éléments sont intéressants. En fait, qu'il soit terroriste ou qu'il soit un héros est intéressant dans les deux cas pour la CIA. Et ça, c'est aussi quelque chose qui leur permet de s'en sortir. Et puis surtout, en fait, à partir d'un certain moment, on sent qu'on nous envoie vers autre chose. Donc là, ça est aussi intéressant. Je vous propose d'écouter le discours de Nicholas Brody quand il rentre et quand il est encore vu comme un héros. Et vous allez comprendre dans sa manière d'utiliser les mots à quel point lui-même est un excellent communicateur. Et donc c'est aussi quelque chose qui est important dans la construction de ce personnage parce qu'il parvient tout à fait à cacher les choses qu'il veut cacher.
Bonjour Marines.
Bonjour monsieur.
J'ai dit bonjour Marines.
Bonjour monsieur.
Repos. Sergent Brody, au nom du président des États-Unis et de la nation reconnaissante, c'est avec allégresse que je salue votre retour. Sergent Nicholas Brody.
Merci, monsieur le vice-président.
Très franchement, je ne suis pas doué pour les discours. C'est ma femme qui parle le plus dans notre famille.
Même si je ne peux pas citer leur nom, je veux remercier les membres des forces spéciales qui m'ont sauvé la vie. Et vous dire merci à tous pour vos prières et votre fraternité. C'est ce qui a changé la donne. Mais surtout, je veux dire merci... Je veux dire merci à ma famille
pour leur courage durant mon absence et pour n'avoir jamais douté que ce jour viendrait. Je ne suis pas à plaindre.
C'est y faire.
On a parlé jusque maintenant donc de l'intrigue, mais est-ce que les personnages ont, eux, une grande importance dans la série ?
Alors oui, au début surtout les deux, centraux, Carrie et Nicholas Brody. Je pense que de plus en plus, le personnage incarné par Mandy Patinkin, Saul Berenson, sort son épingle du jeu, et c'est dû, à mon avis, au jeu de l'acteur, qui est excellentissime, et donc on ne peut pas garder cet acteur dans un personnage secondaire, c'est absolument pas possible. Le personnage de Carrie, je pense, devient de plus en plus important. C'est vraiment un personnage qui prend énormément d'épaisseur au fil des saisons. Depuis le début, il y a des choses qu'on connaît. Elle est bipolaire, elle a caché à la CIA. Ça lui permet d'être la personne qu'elle est, d'avoir le sens de l'observation qu'elle a, d'être obsédée par son sujet, de pouvoir analyser les choses, parce que c'est une analyste à la base, une analyse de données. Mais on sait aussi qu'elle est le genre de personnage maudit, qui est dès le début dévouée à une mission narrative qui est « elle sera incomprise ». Et sa maladie fait que nous, on sait que c'est un plus pour elle, mais en fait, la plupart des gens vont pas savoir que c'est un plus pour elle. On sent que c'est le genre de personnage qui est toujours à contre-courant des autres. C'est une espèce de prédicatrice, mais qui n'est pas entendue. Et on sent que dans le cadre de la CIA, son obsession et sa maladie peuvent mener à l'insubordination, et donc ça a des conséquences.
Tu disais que le personnage de Mandy Patinkin, Saul Berenson, et que le personnage de Claire Danes, Carrie Mathison, prenait de l'importance et au détriment de Nicholas Brody, ou bien au détriment d'autres personnages ?
Ils prennent de l'importance au détriment de Nicholas Brody.
Qui passe clairement au second plan.
Oui, moi je trouve. Enfin, je trouve, hein. Moi c'est comme ça que je le lis. Et en plus, Carrie a de plus en plus notre sympathie. On est de plus en plus convaincu qu'elle a raison, qu'elle a vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Et là, ça dépasse très clairement d'ailleurs Nicholas Brody en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est toujours de se dire comment vont-ils faire pour, alors que certaines preuves s'accumulent de « elle a raison, elle comprend la géopolitique du moment », comment ils vont nier ça ? Et quels sont les personnages qui vont petit à petit nier ? Parce que forcément, si une personne se rend compte qu'elle a dit vrai sur ce point-là, il a tendance à lui faire confiance, et donc il faut que d'autres personnages s'amènent pour ne pas lui faire confiance. Et ce personnage, en fait, dans ce côté de malédiction, fonctionne très très bien. Elle est très attachante aussi.
Of course he's bad-mouthing us. What do you expect? He's doing what he needs to preserve his cover saw, that's all.
Well, calm down, I'm just asking.
The plan changed. So we do what we always do, what he's doing, we adjust.
We did adjust. We tried lifting him out of there, he blew us off.
Because he still thinks the plan can work.
Is that what he's saying?
That's what I'm saying.
So he hasn't reached out to you?
No, we said all along any contact with me was too risky, right? What's going on?
It's time he got on a plane and came back.
We can't just abandon him here. Saul, I have been right about him this whole time.
I know. Then we'll talk it through when you're back. Carrie? Carrie, you hear me?
Yeah, sure. Bye.
Bye.
Nicholas Brody, lui, suit un chemin, je trouve, un peu inverse. Alors, ils ont dû trouver un moyen de garder les deux, on est bien d'accord. Normalement, il aurait dû être mort après le premier épisode, si la CIA s'était conduite comme la CIA doit se conduire normalement. Donc, ils doivent trouver un moyen. Et le moyen qu'ils ont trouvé, à mon avis, n'est pas bon. C'est-à-dire que, alors que la première saison est assez convaincante, puisqu'on développe plusieurs thèmes le concernant, à la fois le terrorisme, à la fois le lien avec les musulmans et l'islam, mais à la fois aussi comment on fait pour rentrer chez soi après autant de temps, le choc de se retrouver en liberté alors qu'on a été emprisonné longtemps, comment on deal quand on est étranger dans sa propre famille, tout ça c'était très intéressant la première saison, et ça disparaît petit à petit. Son passage en politique est à mon avis moins convaincant, d'ailleurs la série elle-même l'oublie assez vite, et dans la troisième saison, il est un peu abandonné, au sens propre comme au sens figuré, vous comprendrez. Et je trouve que la série fait un reboot un peu facile, c'est-à-dire que on retourne aux doutes mais au doute initial. Et je trouve que la manière dont ils ont amené ça n'est pas du tout digne du personnage.
Mais justement, vu que la série doit garder ce doute, et en même temps, si on part du principe qu'il est réellement un terroriste, est-ce qu'on va nous montrer, par exemple, des flashbacks ou expliquer pourquoi il est devenu comme il est ?
Alors, on a quelques flashbacks dans la première saison. Ensuite, c'est complètement laissé dans l'oubli. La troisième saison, sur la fin, redevient très intéressante à son sujet, parce que de nouveau, là, le doute est constructeur d'histoire. C'est-à-dire que on a un doute, mais ça permet à l'histoire de véritablement avancer. Et il joue sur le doute que le téléspectateur peut avoir pour amener deux, trois éléments. Mais je trouve personnellement que la manière dont la saison l'amène est un peu pauvre. Et donc forcément, le personnage de Carrie devient plus important et les personnages qui sont autour d'elle, et donc forcément, Saul Berenson deviennent le point, à mon avis, important. Et donc, le fait que ça se recentre beaucoup sur Carrie a une conséquence qui est que la CIA devient l'élément important dans cette série petit à petit. Ça n'est plus le duo terroriste possible, agent de la CIA, mais ça devient la CIA et son fonctionnement, et la CIA et son fonctionnement dans la géopolitique du Moyen-Orient. C'est pas inintéressant, mais si vous étiez principalement intéressé par le duo d'acteurs du début, vous ne serez pas nécessairement intéressé par ça. Et ça devient aussi une série plus déjà vue. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'y a pas des tonnes et des tonnes de séries sur la CIA, mais un peu d'aventure, d'espionnage, etc. Ça, oui, par contre, je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose
de... Ça devient quelque chose de plus classique.
À mon avis. C'est intéressant à certains niveaux. C'est-à-dire que on voit effectivement des méthodes qui pourraient être celles de la CIA, de renseignement, d'infiltration dans un pays, de vérification de certaines données, parfois de manipulation de personnes sur le terrain pour avoir des renseignements ou pour faire tourner les choses à leur avantage. Ce qui est surtout intéressant dans la troisième saison, c'est qu'ils insèrent aussi l'Iran dans les thématiques. On reste pas en Irak, parce que l'Irak, ça fait quand même longtemps que la guerre a commencé, qu'elle s'est terminée, etc. Et c'était d'ailleurs fortement bien joué, puisque c'était à peu près en même temps que les relations avec l'Iran se sont détendues dans la vraie vie. Donc c'était assez bien joué, je dois dire. Le timing, en tout cas, joue à leur force. Ça paraît en tout cas jouer sur une géopolitique qui est proche du réel, et on peut parfois se dire, ah ben oui, on comprend certaines choses par rapport au monde dans lequel on vit maintenant. Si ça tient la route au niveau global, il faut quand même que je vous dise que des gens ont analysé des épisodes très finement, et les gens qui s'y connaissent disent, en fait, c'est tout à fait du grand n'importe quoi, notamment sur les relations entre Al-Qaïda et d'autres groupes qui sont taxés de terroristes par certaines personnes et pas par d'autres, comme le Hezbollah par exemple. Ils disent, les relations qu'on tisse entre Al-Qaïda et le Hezbollah, notamment dans la saison 2, sont absolument fantaisistes, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc la plupart des gens, en fait, pointent les erreurs, mais quand on n'y connaît rien, comme moi, bon, ça passe assez bien finalement. Il faut savoir que le Liban a même à un moment vérifié s'il pouvait porter plainte contre discrimination, justement pour la représentation du Liban, du terrorisme au Liban et du Hezbollah dans la saison 2, ce qu'ils n'ont pas fait finalement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se sentent assez heurtés. Moi, je pars du principe qu'on est dans une fiction d'espionnage, et que les fictions d'espionnage ont toujours été plus ou moins proches du fantasme et plus ou moins proches de la réalité. Il suffit de voir les James Bond, les SAS ou 24 heures chrono pour se rendre compte que c'est pas la première fois qu'on a une série qui nous raconterait, entre guillemets, à peu près n'importe quoi.
Un petit mot peut-être sur quelque chose d'assez particulier dans cette série, c'est le générique.
Oui, qui est fabuleux, je trouve. Oui. Qui lui aussi joue entre les liens entre la fiction et la réalité, puisqu'on y voit des images du 11 septembre, qui est quand même l'événement... pas fondateur de la série parce qu'on ne le voit jamais, ça se passe 10 ans après, mais qui est l'élément qui a marqué très fort tous les agents sur le terrain, y compris Carrie Mathison. Et si elle devient probablement aussi obsédée par le fait de trouver qui est le terroriste parce qu'elle n'a pas vu qu'il y avait un acte terroriste qui allait se produire aux États-Unis à ce moment-là. On voit aussi Barack Obama, etc. Donc c'est une série qui joue beaucoup aussi sur ce genre de lien, et qui joue beaucoup avec des références aussi américaines, puisqu'on y voit des chanteurs, etc. C'est un générique que je trouve très beau. Je comprends pas toujours tous les éléments qui sont dedans, mais je pars du principe
qu'on est... L'histoire du labyrinthe, ouais, avec Brody et Carrie qui sont un peu perdus dans on sait pas trop quoi.
Je vous avoue que je me suis pas renseignée, parce que des fois j'aime bien garder un peu le mystère sur ce genre de choses. On sent à la fin de la saison 3 qu'il va y avoir des choses qui sont sacrifiées. On sait d'ailleurs qu'il y a des acteurs qui sont plus payés maintenant de manière récurrente. Par exemple, on perd un peu le côté familial de Brody, et ça c'est dommage, parce que je trouve que c'est vraiment un axe très intéressant sur comment on fait quand on est la famille du héros, par exemple, ou la famille de celui qui pourrait être un terroriste, ou tout simplement la famille d'un gars qui doit rentrer 8 ans après, donc ça c'est un peu dommage. On sent que Saul, Carrie et le personnage de Quinn, par contre, vont probablement sortir renforcés. Et l'événement qui se passe à la fin de la saison 3 est un événement qui me semble de non-retour. Et donc là, effectivement, ça va probablement lancer la série, soit vers sa perte, soit vers quelque chose de neuf, mais je vous avoue être un peu sceptique sur ça.
Et pour conclure, est-ce que tu nous conseillerais cette série ? Est-ce que pour toi, c'est une série qui vaut le détour ?
Moi, je trouve que c'est une série qui vaut tout à fait le détour. Il faut prendre le temps de regarder la saison 2 pour aller vers la saison 3, à mon avis. Si vous rentrez dans la série, je vous conseille d'aller jusqu'à la fin de la saison 3. Je réserve mon jugement sur la suite parce que je suis un peu inquiète, franchement. On pourrait avoir le syndrome du « on recommence », la même chose, et ce serait un peu dommage. Je trouve notamment que les acteurs jouent vraiment bien. Moi, j'aime vraiment... Alors, Mandy Patinkin, forcément, il est toujours...
Incassable, lui.
Voilà, magnifique. Damien Lewis s'en sort bien avec un rôle qui n'est pas évident. Moi, je l'ai vraiment vu comme la suite de Frères d'Armes. Il est le héros de guerre dans Frères d'Armes, et il part de cette base-là pour développer le personnage de Nicholas Brody, qui doit emmener parfois dans des extrêmes pas évidents à jouer, à mon avis. La saison 3 ne le sert pas vraiment en tant qu'acteur.
Ce qui est assez amusant, c'est qu'il sortait aussi d'un autre rôle, celui du personnage de Life, qui avait passé 10 ans en prison, ouais, pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Donc un peu ce qu'il avait pu vivre dans les geôles d'Al-Qaïda.
Ouais, tout à fait. Et Carrie, donc Claire Danes, moi c'est une actrice que j'aime bien. Je trouve que son surjeu fonctionne très bien dans les moments où elle est atteinte de troubles et de crises liées à sa maladie. C'est aussi un personnage qui n'est pas évident à jouer, et elle doit composer avec des émotions qui sont difficiles, à mon avis, à transposer. Il va vraiment falloir vérifier dans la saison 4 si le recentrage sur son personnage à elle, qui me semble être vers quoi on va, hein, ça tombe, me trompe, hein, on verra bien, mais il va falloir voir si les scénaristes parviennent à donner assez d'ampleur et de profondeur à son personnage que pour qu'elle puisse le jouer véritablement. En fait, vous entendez que j'ai vraiment la crainte que cette série fasse des saisons de trop à partir de maintenant et devienne trop une série CIA. Ce serait, à mon avis, dommage. Mais bon, voilà.
Ce sera l'occasion, en tout cas, d'en reparler d'ici quelques saisons et d'analyser la suite en ta compagnie. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour un prochain dossier de Frontières des séries.
Retrouvez Aux Frontières des séries sur le web. www.afds.tv.